ingénieur de Stanford, Manu Prakash, qui pour en fait a fait une thèse ou un mémoire, je sais pas, et en fait il est parti sur l'idée de faire un microscope à bas coût pour en fait servir dans les pays du tiers-monde, là où ils n'ont pas de sous, à diagnostiquer des maladies microbiennes du style la malaria. Et donc en fait il arrivait à élaborer un microscope tout en papier qui utilise juste une toute petite lentille, et en fait le coût de revient de ce microscope est de 50 centimes. Et comme il est entièrement en papier, on peut en envoyer des milliers n'importe où, il n'y a pas de problème, ou chacun peut se l'imprimer chez soi. Donc on a mis un petit lien si vous voulez aller voir un peu à quoi ça ressemble.
Il n'y a que la lentille qu'il faut commander.
Oui, c'est une espèce de petite bille transparente, c'est ça,
hein? Oui, voilà, c'est un super optique. C'est un nouveau produit qui existe depuis quelques années, je crois. Et du coup, ils ont profité de cette nouvelle technologie pour faire ce genre de nouveau microscope.
Ensuite, aux États-Unis, alors est-ce que j'ai l'info? C'était ouais, sur le dollar et le bitcoin. Donc forcément, le bitcoin, ça échappe, on va pas le rappeler, tout le monde le sait maintenant, c'est une monnaie virtuelle qui échappe à toute réglementation. Ça n'est pas lié à une seule banque ni à un État. Donc aux États-Unis, forcément, il y a de l'argent qui leur file entre les doigts. Donc le Congrès américain, certaines personnes du Congrès américain ont décidé qu'il fallait interdire le bitcoin. Et là, il y a une personne du Congrès américain, je ne sais plus laquelle, qui a dit les dollars américains seraient réputés pour être utilisés dans des transactions illégales. Des mallettes pleines de dollars servent aussi aux échanges illégaux, comme on peut le voir dans des films comme American Hustle, Dallas Buyers Club ou encore le classique Scarface. Des dollars américains étaient présents par camion entier pour favoriser l'ascension de Saddam Hussein, par voiture entière lorsque Noriega était arrêté pour trafic de drogue et par mallette entière dans l'affaire du Watergate. Le dollar est clairement utilisé dans la vente illégale de biens, pour des transactions anonymes, de la fraude d'impôts, pour faire la spéculation. Avant que les États-Unis n'aillent trop loin sur cette mauvaise pente, je demande expressément aux régulateurs d'agir vite et de travailler ensemble pour interdire cette monnaie dangereuse afin de l'empêcher de nuire à nos bons travailleurs américains. Donc voilà, il retourne le truc contre eux et il veut faire l'interdiction du dollar.
Et depuis, le Bitcoin a été reconnu par l'IRS, c'est le système des impôts américains, comme une propriété. Et donc la défense, l'été dernier, il y a un site qui s'est fait fermer, ça s'appelle Silk Road, avec le mec qui s'est fait prendre tous ses bitcoins, il en avait une quantité astronomique.
Et donc, Dread Pirate Robert, c'est ça?
Ouais, Dread Pirate Robert, et il en avait une quantité astronomique, et donc ils veulent se servir de cette modification des bitcoins en propriété et non comme monnaie, pour dire que toutes les inculpations en tant que blanchiment d'argent n'a pas lieu d'être, vu que c'est juste une propriété qui a accumulé.
Ok. Vincent, toi, t'as vu une actu sur Taïwan ?
Ouais, sur Taïwan, parce que je reviens de 15 jours à Taïwan, et quand j'étais là-bas, il y avait le début d'une grosse manifestation étudiante. Alors, pourquoi il y avait une grosse manifestation étudiante ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que le gouvernement taïwanais a signé un petit peu en loose day un accord de libre-échange avec la Chine. Donc, pour les étudiants, grosso modo, c'est les Chinois qui peuvent venir bosser à Taïwan à moindre coût. Et pour les étudiants, du coup, c'est un petit peu les mecs qui viennent bouffer leur boulot. Donc, ils ont fait une grosse, grosse manifestation pour deux choses. La première, parce qu'ils étaient quand même assez déçus qu'il n'y ait pas eu un débat là-dessus, ou en tout cas une consultation. Ben, bref, c'est pas non plus un petit accord, quoi. Et le deuxième, c'est que du coup, ils sont bouffés leur boulot comme ça. Donc, ils ont pris le Parlement. Ils ont manifesté devant le Parlement. Ils sont même rentrés dedans de force, à coups de chaise et tout ça. Donc, c'était pas trop pacifique non plus, mais ça l'était à l'extérieur, à l'intérieur un peu moins. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait un gros sitting qui a duré longtemps. Ils étaient très nombreux, les étudiants. Ils sont fait déloger par les flics, c'est ce qu'ils appellent la démocratie à 4h du mat, c'est-à-dire qu'en fait, les flics sont venus les déloger, mais de façon super violente. Et ça n'a pas trop plu aux Taïwanais. Et les Taïwanais ont fait un espèce de crowdfunding express, où ils ont récupéré 6 millions de dollars taïwanais en 2 heures.
Ce qui fait à peu près
150 000, 200 000 euros. Et avec ça, ils ont acheté la une du New York Times, qui a été publiée le 28 mars. voilà, pour un petit peu interpeller la communauté internationale sur ce problème-là, et surtout même la communauté taïwanaise, vu que les médias taïwanais ont très très peu parlé de cette histoire-là, parce que un petit peu à la botte du gouvernement. Donc c'est la démocratie, mais c'est pas encore tout à fait ça.
Et depuis, il y a un stream en direct aussi dans l'Assemblée, où ils sont en train de dormir,
train d'occuper l'Assemblée. Ouais, ouais, ils sont très très organisés, ouais. Et donc, ils ont donné le nom de démocratie de 4h du mat quand ils sont fait déloger, et là, dimanche dernier, ils ont fait la démocratie à 4h de l'après-midi, où en fait, c'était 500 000 Taïwanais qui se sont retrouvés pour manifester devant le Parlement en toute pacificité. Et voilà, donc je trouvais ça assez, assez important. Et surtout, voilà, ils ont eu 6 millions de dollars en 2 heures, ce qui est assez incroyable pour un truc qui, justement, n'est pas dans les médias. Donc ils ont vraiment réussi à faire du bouche à oreille dans tout le pays, quoi.
Et le New York Times aurait pu leur faire une réduc'am.
Je sais pas si c'était s'ils ont eu une réduc'am ou pas, ça, j'en ai aucune idée.
C'est un peu leur boulot de transmettre ce genre d'informations sans forcément intégrer ça en termes de pub, quoi.
Bah, c'est
pour
ça.
Faire
là,
en France, moi, je n'ai pas du tout entendu parler. Mais bon, je regarde plus la télé.
Il y en a eu un petit peu, entre autres, sur Euronews.
D'accord.
Ouais, sur Euronews, mais c'est Euronews, c'est pas non plus le.
C'est pas franchement une. C'est pas une chaîne qui est regardée par beaucoup de monde. Du moins dans une grande partie de la France.
Ouais, pareil pour en Espagne, où il y a eu des grosses manifestations de 2 millions d'Espagnols à Madrid ce week-end. On n'a pas trop entendu parler non plus.
En Catalogne non plus. Il y a eu pas mal de manifestations aussi avec le refus du référendum.
Une petite news rigolote, c'est en 92, Peter Mayer, un ingénieur néerlandais, il a créé un algorithme qui permet de transformer des images en son. Et cet algo a été repris récemment, en fait, pour aider des aveugles à voir grâce au son. Donc, en fait, il y a des aveugles qui, après beaucoup d'entraînement, donc là, ils parlent de 70 heures d'entraînement, ils arrivent à, grâce au son, à percevoir des images et même à reconnaître des visages. Donc, moi, je me suis un peu penché sur le truc, et c'est ce qu'on appelle la synesthésie. Donc, en fait, la synesthésie, pour résumer et faire simple, c'est associer un sens à un autre. Donc, par exemple, il y a plein de gens, ça arrive à plein de gens, que, par exemple, on associe à un chiffre une couleur. Donc, si ça vous arrive, ce n'est pas normal. Et aussi associer des sons à des couleurs.
Ou à une odeur.
Par exemple, Pharrell Williams, lui, bah, ça lui arrive, il associe des sons à des couleurs. Ça nous arrive souvent aussi, associer des souvenirs à des odeurs. Et donc, en fait, ils ont également sorti cette appli sur Android et iPhone. Donc, vous pouvez aller là. Je crois que sur iPhone, ça s'appelle iMusic. Je ne me rappelle plus de celui sur Android. Moi, je l'ai testé personnellement. Bon, après m'être pris une étagère et m'être pris le pied du lit dans le doigt de pied, j'ai arrêté. Mais c'est assez intéressant. En fait, on a un balayage de l'image au niveau sonore. Bon, il faut essayer sur. On peut arriver à un bout d'un moment à visualiser les couleurs. Si on prend une feuille blanche, une feuille noire et ainsi de suite, on arrive à percevoir la différence de son. Mais bon, j'ai pas arrivé à voir. Mais l'initiative est intéressante, quoi.
Il y avait un aveugle comme ça qui s'était monté un système de caméra avec un truc, une électrode qui se mettait sur le palais.
Ouais.
Et du coup, l'image était transformée sur l'électrode. Avec différents courants qui se mettaient, qui passaient par le palais, et grâce à ça, il pouvait voir un peu ressentir les contrastes par son palais.
Ouais, ça doit pas être très important, quand même, après.
Et il s'était fait démonter sa caméra lors d'une manifestation.
Ah oui, c'était lui. C'était pas celui qui était à McDonald's à Paris, qui s'est fait péter sa
gueule.
Je crois c'était l'été dernier.
Ce truc,
ouais, parce que les vigiles.
Ils pensaient que c'était Google Glass.
Exactement,
c'était un truc médical.
Mais en fait, ton appli, c'est une espèce de sonore, du coup. Mais un sonore amélioré,
ouais,
quoi.
Oui, il faut tester. C'est assez spécial. Mais bon, après, bon, les mecs, ils sont aveugles. Donc déjà, je suppose qu'ils ont, ils sont plus entraînés au niveau audition.
Oui, et puis même sensation.
Et donc, bon, au bout de 70 heures, il y a la vidéo où on voit le gars qui arrive à dire un peu comme le jeu qui est. S'il a une moustache, s'il est blond, s'il a les cheveux longs,
génial.
Tout ça, quoi. Ouais, ouais. Alors, autre actu. Ah ouais, l'actu What the fuck du jour. Bon, je pense que ça va faire un gros buzz, ce truc. Il y a, comment il s'appelle, Abraham Poincheval, qui là, depuis 2 jours, vit dans un ours au centre du salon de compagnie du musée de la chasse et de la nature. Donc, la personne, il va passer 13 jours dans un ours. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils ont pris un ours. Ils l'ont complètement empaillé. Ils ont mis une structure à l'intérieur en bois pour avoir le maximum de place. Et il reste dans cet ours, un peu comme une hibernation dans un ours, quoi. Et en fait, il ne bouge pas, hein, il ne sort pas. Il y est 24 heures sur 24. Dedans, et donc on va poster les images, on voit un peu comment il fait. Donc en fait, dans une patte, il a tout un garde-manger qui a été fait par un chef et qui est basé sur des trucs liés au bois, donc des trucs champignons, trucs. Mais après, franchement, moi je vois trop ça comme un fake, mais bon,
en cette période-là, autour du 1er avril, c'est
ouais, voilà, et puis bon. Enfin bref, après, vous allez me demander comment il fait pipi et caca. Il a apparemment, dans une des jambes, il y a des réceptacles à cet effet-là. Et dans le musée, il y a un œilleton au niveau de l'anus de l'ours pour aller voir le mec. Mais le pire, c'est qu'il y a une caméra en fait, qui le filme 24 heures sur 24. Donc, on a une belle vue sur ses parties. Et pour l'instant, je l'ai vu dormir, hein, donc je sais pas. Après, je sais pas comment il fait pour la truc matinale là. Comment, enfin bref, et ça pose tout un tas de questions. Mais bon, on va mettre le truc à vous de faire une idée du truc.
Quelle idée aussi de mettre un cheval dans un ours. Mais c'est pas son nom.
Poincheval.
Oui, c'était.
Et ça fait penser aussi au test de l'ESA. L'ESA qui fait des tests pour savoir combien de temps l'homme pourra tenir en position allongée pour aller jusqu'à Mars. Et qui a voulu payer des cobayes 18 000 dollars pour qu'ils acceptent de rester observés dans un lit pendant 70 jours. Et l'expérience a eu lieu à Toulouse, mais ça a duré que 21 jours. Donc on se demandait si l'expérience de l'ours, c'était pas justement pour une expérience pour envoyer des hommes dans l'espace dans un ours.
Mais oui, ok, d'accord. Mais en fait, pourquoi ça a duré 22 jours? Parce qu'ils en ont eu marre ou c'était 21
j'ai pas,
jours?
J'ai pas lu tous les articles.
Non, je pense qu'il avait fait par étapes, si je me souviens bien, il avait fait par étapes. Et ils avaient commencé par 21 jours, ça paraissait plausible de rester 21 jours. Mais ils étaient pas allongés dans un caisson, je crois.
Ah non, ça c'était autre chose, c'était les Russes.
C'était autre chose. Ouais. Mais non, mais à Toulouse.
À Toulouse?
Ils avaient fait un caisson.
Ok. Bah, je pense que là, c'était plus le lit d'hôpital.
Juste le lit d'hôpital, ouais.
Ouais, ça fait quoi, en fait, de rester assis trop longtemps par des escars?
Ce genre de truc, ça fait chier rapidement, quand même.
Ouais, oui. Donc, ok. Ensuite...
Il y avait des news sur le rachat d'Oculus par Facebook.
Ouais.
Bon, rapidement.
Oculus, casque de réalité virtuelle qui a fait grand bruit parce que c'est génial, quoi, et qui est entièrement qui est open source.
Non, qui était crowdfundé. Mais qui est crowdfundé, ouais.
Ouais,
qui était pas très cher.
C'était dans une optique jeu vidéo et pas une optique militaire aussi, parce que ça a surtout été fait. Ils s'en servent pour des trucs militaires.
Donc ils ont sorti des kits de développement l'été dernier et là récemment.
Oui, on avait pas mal joué avec. Et donc, en fait, ils se sont fait racheter par Facebook.
Pour 2 milliards de dollars, pour le prix d'un...
Donc, on va pouvoir aller sur Facebook en réalité virtuelle. C'est quand même...
Voilà. C'est un peu le graal du monde cyberpunk. C'est tous les trucs, le Second Life, ou aujourd'hui, ceux qui ont le trophée, c'est Minecraft. D'avoir une réalité augmentée, enfin, une réalité virtuelle où on peut se déplacer et construire des trucs, et d'avoir une immersion totale dedans. Donc, autant avoir des lunettes et me brancher dessus.
Et d'ailleurs, le gars de Minecraft, j'ai oublié son nom là, devait faire un portage pour supporter l'Oculus. Et voilà. Du coup, il a dit qu'il pouvait aller se faire Facebook, que jamais il ferait ça, quoi.
Donc ça laisse maintenant de la place à d'autres personnes pour faire des casques de réalité augmentée, des casques virtuels. Un peu
surtout
plus.
Que Valve s'est lancé dans le truc.
Sony s'est lancé dans le truc aussi.
Et ouais, Valve aussi, ouais. Et apparemment, c'est à milieu même d'Oculus de ce que c'était. Mais bon, ils se lancent tous là-dedans. Tu vois Google, ils ont racheté... ceux qui faisaient les robots là, qui courent très vite.
Ah oui, qui est une application militaire, c'est...
DARPA
non, pas la DARPA. Boston Dynamics.
Ouais, ouais, voilà, qui avait le Big Dog.
Moi, je vais poser une question. On a parlé, pendant longtemps, on a parlé de Second Life, on n'entend quasiment plus parler. C'est devenu quoi ?
Ça marche pas, toujours. C'est juste, il y a beaucoup plus de vieux. Et si vous regardez, il y a le mec qui faisait les émissions Striptease, qui a fait Si on avait tenu, on serait toujours au Congo, qui avait fait une émission spéciale Second Life où c'était des couples qui passaient leur vie sur Second Life.
C'était triste quand même.
Bah, c'est du niveau Striptease, ouais, c'est la vie des gens.
Ouais.
Donc si quelqu'un arrive à retrouver le lien, ce serait pas mal. Hein. C'est une très bonne vision de Second Life. Donc a priori, les enfants vont passer en Second Life, ça a l'air complètement pourri. Donc ils vont tous sur Minecraft maintenant, c'est un peu l'équivalent Second Life où on peut construire des trucs, c'est gratuit. Il y a des
web serveurs, il y a des bugs. Parce que Second Life, c'était devenu payant.
Oui, depuis le début, hein. C'est payant. Mmh.
Non, enfin, si tu veux acquérir des terrains
ou des
objets, il fallait payer. Il y en a qui s'en fait des sous.
Il y en a qui s'en fait beaucoup de sous, alors.
Mmh. Mais bon...
Bon, autre nouvelle, on n'a toujours pas d'appel hein, au 05 61 53 36 95.
Autre nouvelle, ils ont peur de téléphoner peut-être, je ne sais pas. Autre actu, après j'avais rien d'autre.
Crowdfunding du laptop Novena. Alors, Novena, c'est un laptop entièrement open source et documenté, monté par Bunnies et Xobs, qui faisait fait du matériel hardware déjà, je ne sais plus comment s'appelait le matériel où fonctionnait Bunnies. Bref, c'est un laptop qui est basé sur un ARM à 1,2 GHz avec un FPGA inclus dedans. C'est très do it yourself, mais ça permet aussi de faire un vrai couteau suisse de tout ce qu'on peut faire dans un laptop.
Et ça sera combien ?
Et donc la première offre, c'est juste pour la carte électronique, c'est $500.
Et si on veut le tout, voilà, 500$ ?
$500, et c'est pas un Raspberry Pi, c'est un truc bien costaud.
Pour un laptop ?
Non, là c'est juste la carte électronique, c'est comme si on devenait la carte mère de son laptop. Et la version de luxe, c'est $5000 avec le noyer en bois et tout ça. Et la version laptop, c'est $2000.
Et c'est quoi donc par rapport à acheter un n'importe quel laptop ?
C'est un laptop customisé open source, customisable, avec vraiment orienté pour les hackers, avec du FPGA à l'intérieur et pouvoir monter ta propre utilisation de ces cartes-là.
D'accord.
Bref, je pense que ça a un intérêt et qu'il y aura des trucs intéressants sur ce genre de plateforme. Et je voulais juste parler d'un truc sur Bitcoin en plus. Il y a des très bons tutoriaux sur les multisignatures. Donc Bitcoin, ça fonctionne, on a parlé rapidement, on s'envoie des numéros par internet et on signe les numéros avec de la cryptographie. Et la multisignature, ça permet d'être plusieurs à la fois pour signer les numéros. Donc, la signature à quelqu'un d'autre, on est plusieurs à devoir signer la transaction avant qu'elle soit effectuée. Donc, ça permet de sécuriser vraiment une transaction. Et au lieu d'être quand on se fait pirater, au lieu d'être tout seul à perdre son argent, on est sûr que plusieurs personnes sont en jeu pour débloquer de l'argent. On va passer à la première musique.
Ouais.
C'est quoi ? C'est...
Alors, c'est des robots qui jouent.
Ou alors c'est Unbranched.
Pet de fric. Pété de fric,
ouais.
Pété de fric.
Par Unbranched. Voilà.
Maîtresse. famille à l'abri du besoin.
Péter de fric.
Avant de passer au dossier, le bit et le complot, une news, breaking news.
Le Parlement européen a voté pour la neutralité du net au Parlement.
Bah, ouais. C'est cool.
Ouais. Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
Donc ça implique quoi? On ne sait pas.
C'est pas, il faut aller sur le pad canadasud.tetra.org et si vous allez sur le chat, il y a tout plein de gens qui envoient des liens par rapport
d'accord
à ce qui s'est passé.
Donc, le bit et le complot. Donc, aujourd'hui, on va parler de la fusion froide. Alors, je vais sûrement dire des conneries, des approximations, mais ben, ça vous va pas, tant pis. Donc, la fusion froide. Alors, petit rappel sur ce qu'est la fusion, la fission, tout ça. Donc, la fission nucléaire, c'est à peu près ce qu'on utilise dans nos centrales nucléaires. C'est quoi? C'est en fait sur de l'uranium-235, on envoie un neutron, ce qui va faire que l'atome va se scinder en deux petits atomes et balancer aussi d'autres neutrons. Et cet éclatement, ça va dégager énormément d'énergie. Et les neutrons qui vont être dégagés vont aller taper dans d'autres atomes qui vont s'éclater, ainsi de suite. Ça va faire une réaction en chaîne. Donc cette réaction en chaîne, elle est active dans une centrale nucléaire et la seule façon de contrôler cette réaction en chaîne, c'est par la température. Donc c'est pour ça que des fois, ça part en live et ça s'auto-entretient et ça fait Fukushima. La fusion nucléaire, c'est un peu ce qu'il y a dans le soleil. Et là, en fait, c'est pas la même chose. C'est en fait ces deux atomes qui sont projetés l'un sur l'autre et qui en fait vont être tellement comprimés qu'ils vont faire un seul et même atome. Et ça, ça fait encore plus d'énergie. Et ça a besoin pour se passer de je sais plus combien de millions de degrés où je dis des conneries, mais enfin, il faut une très forte chaleur. C'est là qu'en 89. Il y a deux scientifiques qui s'appellent Fleischmann et Ponce qui eux ont dit ben nous on arrive à faire une réaction nucléaire dans un tube à essai. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tube à essai, ils ont mis une électrode en palladium et l'autre en je ne sais plus quelle matière dans de l'eau lourde sur laquelle ils ont appliqué du courant et en fait quand ils se rendent compte avec des calorimètres pour calculer la chaleur, plus toute l'énergie dépensée dans la réaction et ainsi de suite. En fait, ce qui ressort de cette réaction coûte moins d'énergie que ce qui a été produit plus d'énergie ce qui a été dépensé pour en produire. Donc en fait, en gros, une réaction nucléaire. Et vu que c'est à température ambiante et à pression normale et il n'y a pas besoin de chaleur, ils ont appelé ça de la fusion froide. Donc déjà, petit aparté, qu'est-ce que l'eau lourde? L'eau lourde, c'est de l'eau normale, H2O, Mais attention, les atomes d'hydrogène dont elle est composée sont des isotopes lourds, du déutérium. On va dire que c'est un peu comme de l'eau. Et en fait, là, j'ai regardé, l'eau lourde, elle a été la première fois produite à l'ONIA. L'ONIA, qui est en face d'AZF, à Toulouse. Et donc, ils ont fait chaque année 2 à 3 tonnes d'eau lourde. Et c'est les Allemands qui avaient sélectionné, en fait, en 1943, ce site, en construisant une grande enceinte souterraine au centre du site industriel, en prévision d'une production dès fin 1944. Et donc, là, j'ai un peu regardé. Apparemment, il y a plein de souterrains sous AZF, l'ONIA, la SNPE qui se relient, et il y en aurait plein aussi sur la colline de pêche David et des bunkers, tout ça, quoi. Donc là, je vais faire un peu du teasing. On en parlera la prochaine fois sur la prochaine bite et le complot pour savoir à quoi servaient tous ces souterrains. Il y a des histoires sur le... En septembre 2001, avec l'explosion d'AZF, et si les nazis ne seraient pas cachés dans ces galeries ou plutôt que de l'autre côté de la Lune. Donc... En bref, ces deux chercheurs, ils ont fait cette réaction, et au lieu de le présenter dans des journaux scientifiques où il y a des comités de relecture et il faut qu'en fait l'expérience puisse être reproductible, ils ont envoyé ça au New York Times, et donc là ça fait grand bruit, on a fait « waouh, on a découvert la nouvelle énergie propre
du
21e siècle hein. ». Mais ils n'ont pas montré comment ils faisaient, ni comment le reproduire. Donc en fait, là, toute la communauté scientifique leur est tombée dessus. Et ils ont dit, voilà. Et donc, tous les chercheurs qui voulaient faire des études, on leur a dit, non, laisse tomber. En France, par exemple, il y a le Haut Commissariat à l'énergie atomique, qui a dit non, ça sert à rien, on n'engage pas de sous. Et il y a même Michel Martineau qui a carrément dit en 93 qui s'opposait pas à ce que les chercheurs de l'énergie atomique s'en occupent, mais que ça soit en dehors et chez eux le week-end.
Le CEA.
Voilà, donc tout ce qui est donc ça, parce que forcément. Tout ce qui est lobby nucléaire, ça leur porte atteinte. Donc là, déjà, on a le complot du lobby nucléaire et tout ce qui était les pétroliers, tout ça, et ainsi de suite. J'ai perdu le fil. Voilà. Et là, c'est là où là, j'ai trouvé un truc très fort sur Wikipédia, en m'intéressant sur la fusion froide. C'est en fait, en 1799, le chimiste français Louis-Nicolas Vauquelin, il a donné aux poules de l'avoine, juste de l'avoine, donc quelque chose de très pauvre en calcium, et il s'est aperçu qu'en fait, les poules continuaient à faire des œufs. Et il leur a pris, il y a un autre gars... comment il s'appelait, je ne sais plus, Louis Quévran, qui, durant 20 ans, de 60 à 80, il publia 6 livres sur le sujet, et lui, en fait, il donnait du mica à manger aux poules. Et donc, en fait, il a sorti toute une formule, comment se transforme le mica en calcium. Donc, en fait, la poule ferait de la fusion nucléaire en transformant des éléments, donc la transmutation, donc en fait transformer le plomb en or, tout ça, la poule arrive à le faire.
La poule est la pierre philosophale.
C'est ça.
Non mais attends, on est tous là, la poule et tout, non, elle fait des réactions nucléaires. Donc là je me suis dit, fusion froide, ça envoie du lourd, c'est de l'info. Donc en fait, l'idée de cette poule, c'est qu'en fait dans la réaction de la fusion froide, c'est accompagné en fait d'une transformation chimique et nucléaire. Il n'y aurait pas que du nucléaire, mais des trucs chimiques. Et pour l'instant, on ne sait pas comment en fait on voit, parce que après il y en a qui ont repris les expériences, et de ce que j'ai pu comprendre actuellement, la communauté scientifique dit y a quelque chose qui se passe, ils arrivent à le mesurer, mais ils ne savent pas comment ni pourquoi. Et donc, là, il y a un monsieur en Italie, comment il s'appelle, Andrea Rossi, qui lui, à peu près au même moment, il a commencé à travailler sur ces énergies, et lui, il arrivait à faire pareil de la fusion froide. Alors maintenant, on n'appelle plus ça de la fusion froide. On appelle ça de l'énergie nucléaire à basse température. Voilà. Donc à basse température, c'est 150 à 500 degrés Celsius. Mais par rapport à une fusion normale, c'est 100 millions de degrés. Donc en fait, lui, il met 50 grammes de poudre de nickel chauffé à 300 degrés Celsius, chauffé par l'électricité le 220, pour démarrer la réaction. Et il fait réagir avec de l'hydrogène sous pression, donc 2 à 20 bars. Qui provient d'un réservoir. Et donc, en fait, cette réaction a produit une énorme quantité de chaleur. Et donc là, il parle de COP, c'est coefficient de performance. Donc, c'est le rapport entre l'énergie qu'on récupère et l'énergie qu'on a dépensée. Et donc, un COP qui serait de 40, donc un truc énorme, quoi. Donc, on fait 1 kW en entrée, c'est 40 kW à la sortie. Donc, lui, en fait, là, dernièrement, il a commencé à commercialiser des machines pour que chacun puisse avoir son petit générateur d'énergie à la maison. Alors apparemment, le mec, il n'a pas donné toutes les formules, parce qu'en fait, il essaie de breveter son invention. Mais dedans, c'est quoi? Il injecte, enfin, il y a un truc spécial dans sa machine qui est resté secret. Et donc, vu qu'il le laisse secret, il ne peut pas le breveter. Et donc là, actuellement, il essaie de commercialiser son produit, mais il y a des problématiques de sécurité, tout ça, parce que cette machine, pendant la réaction, elle produit des rayons alpha et gamma qui sont un peu radioactifs. Et donc lui, il a isolé ça avec du plomb. Et ce qui est intéressant, apparemment, hein, parce que moi, je me méfie maintenant, les rayonnements alpha et gamma, une fois la machine éteinte, ils disparaissent au bout d'une heure. Donc c'est plus radioactif, tout. Et ça, la seule chose que ça produit, sa réaction, c'est du cuivre. Et donc, en fait, aux États-Unis, il a envoyé en fait une batterie de ces machines à l'armement, à la défense américaine, qui sont en train de faire des tests, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir de la fusion froide. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être l'énergie de l'avenir? Est-ce que les poules vont servir de centrale nucléaire? Je n'en
c'est
sais rien.
C'est le rayon secret de la recette.
Voilà.
De poules.
On a pu être
et oui, et justement, en France, il y a quand même des gens qui continuent à travailler dessus. Il y a Jean-Paul Biberian, qui est maître de conférence à l'Université de Lumini à Marseille. Qui a d'ailleurs un blog et plein de vidéos qui expliquent ça mieux que moi. Et d'ailleurs, on devrait, je pense, l'inviter au THSF pour qu'il vienne parler de ça, qui parle objectivement de la fusion froide et où on en est actuellement.
Le lien sera sur le site.
Bien sûr, oui. Voilà. Et puis après, j'avais un truc complètement... Non, c'est toi qui l'as mis, un truc complètement débile. Eh bien, tu en parles, tiens.
Donc, comme on a cette nouvelle rubrique, j'essaye de récupérer le meilleur complot trouvé sur le Reddit Conspiracy. des trucs intéressants avec les FBI, Obama et tout ça, mais aussi des complots assez sympas. Donc, on n'a toujours pas trouvé l'avion MH370.
Je croyais qu'ils avaient trouvé des débris.
Non, ils ont trouvé les poubelles qu'on jette dans la mer qui tournent dans l'océan Indien. Donc,
c'est vrai.
Ça fait plein de débris qu'on voit par satellite. C'est assez marrant parce que du coup, toutes les photos de débris qu'on voit, c'est que des grosses poubelles. Quoi. C'est des trucs.
D'accord.
Et donc, ils n'ont toujours pas trouvé de traces de l'avion. Et donc il y a toujours ces théories là qui sont tournées pendant les semaines qu'on suivit là. Maintenant on n'en parle plus parce que c'est trop vieux. Et donc il y a quelqu'un qui a reçu un selfie d'un ingénieur d'IBM qui était dans l'avion. Et donc il décrit
un selfie. La photo est noire.
Mais il décrit l'histoire parce que en plus il y a un message envoyé dans le selfie. Il décrit l'histoire que l'ingénieur d'IBM a lancé un message en disant qu'il y avait des kidnappeurs.
Une cagoule sur la tête, quand même.
Une cagoule sur la tête.
Donc il a tapé son message sur un portable, un iPhone tactile, une cagoule sur la tête.
Non, il l'a pas tapé, il a dicté son message.
Ah, il a dicté.
C'est avec Siri. Hein.
Merci Siri.
Et en fait, quand les kidnappeurs sont arrivés dans l'avion, il s'est mis le portable dans le rectum.
Ouais. Pour... Alors déjà, tu peux. C'est vachement discret. Puis, enfin, je peux dire, la même avec plein de poppers, c'était tout. Non, ce n'est pas possible.
Donc il explique pas comment l'ingénieur a pu demander à Siri d'envoyer un message avec le Est-ce que ça marche? Est-ce que
bah, si l'ami peut le ressortir quand même.
Voilà.
Tu le nettoies un peu.
Et donc tout ça pour dire qu'ils auraient été atterris à Sergio Garcia, un truc comme ça.
Une île, oui, une île secrète.
Diego Garcia, qui est une île anglaise, mais qui est une base américaine dans l'océan Indien.
Voilà. Où sont lancés tous les bédons.
Bon. Donc, à ce moment-là, il suffirait de regarder sur Google Earth pour voir s'il y a bien l'avion.
Ouais, mais peut-être que cette zone, elle n'est pas visible sur Google Earth.
Les autres satellites qui sont chinois, français, italiens ou russes peuvent aller voir.
Ouais, mais on peut très bien camoufler un avion avec un grand drap.
Et donc, ce mec-là aussi explique que Deepwater Horizon a été détruit. Deepwater Horizon, la plateforme pétrolière, a été détruite de l'espace par un gros laser. Voilà, c'est juste pour dire qu'il a plein d'autres théories sur Fukushima, sur d'autres choses.
Et d'ailleurs, oui, parce qu'en fait, l'info, elle vient d'où à l'origine?
Elle vient de Reddit
Non.
Non, elle vient de
4chan.
De 4chan, ok.
Donc tu vois.
Il explique pourquoi.
Après, c'est un peu dégueulasse, parce que si le gars est vraiment dans l'avion et qu'il y a vraiment des familles qui ont ça, c'est vraiment de
la merde. Il documente vraiment beaucoup ce.
Puis nous, on relaie cette information en plus, tu vois.
C'est le beat et le complot.
Ouais.
Mais dans les trucs rigolos aussi, c'est Courtney Love là, qui a fait entendre. On a entendu parler d'elle, je sais pas si vous
avez suivi.
Ils ont rouvert l'enquête.
Ouais, mais en fait, donc il y avait un site communautaire où tu avais toutes les images satellites et chacun pouvait les chercher, fouiller là-dedans. Et elle a vu plein de trucs qui étaient en fait des reflets dans la vague. Et elle disait que ça, c'était des taches d'huile de l'avion et tout ça. Et en fait, les gens, la moitié sont foutus de sa gueule, mais l'autre moitié, ils ont dit, ouais, en même temps, elle a fait l'effort quand même de chercher.
Ça aurait été énorme qu'elle trouve l'avion.
Bah,
tu
ouais,
vois.
Voilà, mais donc c'était assez rigolo quand même d'avoir un site communautaire de recherche de débris. Je trouve que c'était une bonne initiative quand même à la base.
C'est bien parce que du coup on sait où sont tous, on pourrait aller ramasser les poubelles en fait.
Voilà,
du
c'est
coup,
ça.
C'est tout qui a été noté.
Ouais, c'est le 7e continent, ils appellent ça là, le truc qui tourne en.
Ah oui,
il y a des garbage patch un peu partout dans les trucs.
Ouais.
Le son. Passer à l'agenda.
Ouais, l'agenda. Donc.
Ou le son avant.
Le son. Bah attends, est-ce qu'on a le temps?
Oui.
On a le temps. Allez, on passe à un autre son.
Californication par Tim Dare.
Par des robots.
Bye.
Toujours sur Canal Sud 92.2, nous retrouvons le Tête à la Habane.
C'était une magnifique interface à... Une magnifique interprétation de Californication par des robots,
ouais,
c'est ça,
ouais,
hein,
trois robots.
L'agenda, donc, si vous voulez parler conspiration et complot, tous rendez-vous le vendredi 4 avril, donc demain soir.
Demain soir.
La mécanique des fluides pour la soirée Drink and Roll. Donc Vincent, tu vas nous dire en avant-première, parce que
exactement,
c'est toi qui as l'info.
C'est moi qui ai l'info. Demain soir, ben ouais, conspiration, je sais pas trop, mais en tout cas, Drink and Roll, ça on est sûr. Ça sera un Drink and Roll Doodle or Die. Alors qu'est-ce que le Doodle or Die ? C'est une espèce de téléphone arabe en dessin, c'est-à-dire qu'on te monte un dessin, tu dois le décrire, tu donnes la description à ton voisin qui doit dessiner la description, qui fait décrire à son autre voisin, ainsi de suite, et au final, ça décompose totalement le dessin et ça part un peu dans tous les sens, c'était très très rigolo. Donc demain soir, la mécanique des fluides à partir de 20h-20h30.
Ok.
Voilà.
Samedi 12, soirée quad au bikini avec Install Tête à Lab, c'est quoi, toujours le codomaton ou il y a autre chose ?
Il y a le vidéomaton, je pense, et le photomaton et des manettes pour contrôler le... ce qui se passe
la
en
projection
vidéo.
Projection. Vidéo. Ouais. Ok. Donc ensuite, bah, je vais faire un listing. Hein.
3, ouais, 5... Pardon, j'en ai une. Ouais. Demain soir aussi, à la médiathèque, il y a une soirée rétro gaming.
Ah.
À la médiathèque José Cabanis. Voilà.
Alors, à quelle heure ?
C'est de 18h à 23h, je crois, un truc c'est... comme ça.
Du coup, d'accord, on ne pourra pas venir.
Donc, tous à la médiathèque.
Voilà, je ne voulais pas trop le dire, mais quand même.
C'est pas trop loin en
c'est
même temps.
C'est pas trop loin, c'est à côté. Ouais. Donc, vous pouvez faire un saut.
Se ravitailler et revenir. Voilà. Mais tu sais ce qu'il y aura dedans comme
Je sais que là, toute la semaine, il y avait des.
Il y a du ping-pong.
Ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont. Ouais, sûrement.
Les compètes de ping-pong en électronique. On peut jouer à Pong, on peut jouer à la Wii Pong, on peut jouer au vrai ping-pong.
Pas mal, sympa.
D'accord.
Il y a aussi, je sais qu'ils ont pas mal de bornes d'arcade cette semaine, et je crois que demain soir, du coup, c'est dans l'auditorium, et c'est sur écran géant.
Cool.
Voilà, ça peut être sympa, mais malheureusement, venez au Drink and Roll, ça sera mieux.
Donc, en fait, alors je sais pas qui c'est qui a marqué tous ces trucs. Donc, si vous allez en Chine, du 3 au 5 avril, il y a le Maker Faire à Shenzhen. À Bordeaux, du 5 au 17 avril, Melting Code, donc sur, pour les infos, meltingcode.net. Du 10 au 13 avril, le Jardin Numérique à Rennes.
Avec l'Apéro Code Lab.
Avec l'Apéro Code Lab. Le 19 avril, l'Open Bidouille Camp à Saint-Brieuc, sous les Halles Brassens. Le 20 avril, Open Bidouille Camp, en Ile-de-France, je ne sais pas.
Quelque part.
Trouverez. Et du 24 au 26 avril à la Villette, le Akito Ergosum et l'Hacker Space Fest. Et c'est tout.
Et
attends, le THSF, quand même, faut en parler parce que plein de gens, ils croient qu'il n'aura pas lieu cette année, hein, vu qu'on n'a pas d'infos. Donc, ça sera le dernier week-end de mai, donc le Toulouse Hacker Space Factory, le grand festival de hackers mondialement connu maintenant.
Du 28 au 1er juin.
Du 28 au 1er juin.
Demain voilà. Juin. Et troisième crypto party à Toulouse, 29 avril.
D'accord.
Voilà.
On vous remercie et on se dit le mois prochain. Je ne sais pas la date, mais ça sera le
ça
premier
sera
jeudi du mois.
À moins que ce soit un jour férié.
C'est le 2 mai.
Le 1er mai.
Ah, le 1er. Ah,
et bien. Le 8 mai aussi.
Et le 8 mai. Et, ouais.
Donc le 8 mai, on va dire.
Le 8 mai, c'est férié, non ?
C'est férié ?
Eh ben, c'est férié aussi.
Après, la fin.
Alors, venez le mercredi.
Éventuellement, on peut faire
éventuellement.
Ça.
Éventuellement.
Bon, on verra bien, vous verrez bien.
D'accord.
À bientôt.
À bientôt. Donc c'est la fin de Tête à Lab sur 92.2. Je vous remercie, messieurs. Tout de suite, un petit chamboulement de programme. On part avec où est donc... Mais où est donc Chronique Art ? C'est maintenant et vous aurez Canal Flamenco tout de suite après Chronique Art. À bientôt sur les antennes de 92.2 pour moi-même.